mille amours à mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer, mon damné d'amour, si damné.
Tranche de vie, petit voyage à travers nos existences.
J'en mourrai peut-être, sida assassiné, oh sida, sida comme le furet. Passez par ici, repassez par là, oh sida, sida, assassin recherché.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, nous sommes un pays où les circonstances de l'histoire ont fait que nous sommes devenus un welfare state, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un État, un pays qui offre à ses citoyens une protection sociale diversifiée. À la mesure des difficultés que traverse notre pays, cette protection sociale est devenue de plus en plus complexe et diversifiée, et nous sommes aujourd'hui chez un des acteurs de cette action sociale qui se trouve en première ligne, puisqu'il s'agit de Brigitte, qui dirige l'unité territoriale de Périgueux. Je la remercie d'avoir bien voulu vous parler de ces tâches multiples et complexes. Brigitte, bonjour, merci de bien vouloir répondre à nos questions pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est l'unité territoriale ?
Bonjour Jean-François et merci à vous de venir jusqu'à mon bureau. Alors, unité territoriale, c'est un mot qui recouvre effectivement beaucoup d'administrations. Ici, vous vous trouvez à l'unité territoriale de Périgueux pour le conseil départemental. Mon employeur, c'est le président Perrault, hein, président du conseil départemental. Et sur vraiment le volet de l'action sociale délocalisée auprès du public de 0 à 99 ans. C'est-à-dire qu'on est un guichet de proximité pour l'accueil du public et pour son orientation, son accompagnement. Pour ce faire, on a des centres médico-sociaux, alors les personnes le repèrent puisqu'il y a le logo du conseil départemental et ils ont au minima un premier accueil par des secrétariats qui sont là et qui les orientent. Donc les missions du conseil départemental en ce qui concerne les unités territoriales pour la solidarité et la prévention, c'est l'action sociale, mais c'est aussi la protection maternelle et infantile qui est très très repérée. On a une protection maternelle et infantile très importante sur le département, très développée. On l'appelle la PMI, hein, voilà, puisqu'il y a les sigles. Et puis l'insertion, tout l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA qui sont les plus loin de l'emploi, qui sont accompagnés par le département. Après, il y a d'autres services hein, pour les personnes âgées, le handicap, mais qui ne sont pas délocalisés, mais pour lesquels les réponses de proximité peuvent être aussi apportées. Voilà, donc moi, je dirige l'unité territoriale de Périgueux. Donc c'est un bassin de vie de 80 000 habitants. Hein, c'est Périgueux et la Grande Couronne, hein, jusqu'à Razac à un bout et jusqu'à Sarliac à l'autre bout. Nous, nos références, c'est le canton, hein, puisque j'ai dit que mon employeur, c'était le président du conseil départemental. Donc ce sont les cantons qui font les délimitations des unités territoriales, puisque le département, unité territoriale, c'est une sectorisation géographique. C'est-à-dire que j'ai des collègues, par exemple, j'ai deux collègues qui représentent, qui sont sur l'unité territoriale de Bergerac. Voilà.
J'ai vu qu'il y avait 8 unités territoriales
oui,
dans le
bientôt,
département.
Bientôt, ça va être un petit peu restructuré, mais peu importe. L'important, c'est de retenir que c'est un grand guichet de proximité pour les personnes. Voilà.
Alors, pour que nos auditeurs soient bien au clair, votre unité territoriale, ce n'est pas l'unité territoriale dont qu'on voit nommer quelquefois, qui s'occupe des entreprises, ce n'est pas non plus l'unité ça n'a rien à voir avec les unités territoriales qui travaillent avec l'ADREAL sur l'environnement, l'aménagement.
On est d'accord. Moi, j'ai pour cette unité territoriale des travailleurs médico-sociaux, des assistantes sociales de polyvalence. J'en ai entre 2, 3, pour le plus grand CMS, 4, hein, puisque j'ai 6 centres médico-sociaux hein, sur mon territoire. Hein. Donc on reprend à l'échelle du territoire de 80 000 habitants, hein, l'échelle géographique. Et j'ai une équipe de 8 référents insertion, des puéricultrices de PMI au nombre de 4 et bientôt 5, des éducateurs qui font de l'aide éducative à domicile au nombre de 2,5, j'espère bientôt 3. J'ai aussi sages-femmes, 2 sages-femmes, psychologues hein, qui accompagnent. Alors, ce n'est pas des psychologues qui font de la thérapie, c'est des psychologues qui sont toujours sur le versant enfance-famille et qui accompagnent les familles les personnes dans leur parentalité. C'est complexe. Hein.
Donc, voilà, c'est très complexe parce que je m'aperçois que votre travail, hein, il est à la périphérie de votre travail, de votre action sociale. Il y a tout un ensemble d'autres services avec lesquels, vous, par la force des choses, vous avez des contacts et des échanges.
Bien sûr. On est sur un travail pluridisciplinaire avec des partenaires qui vont... Des partenaires, j'ai peur d'en citer parce que je vais en oublier. Ça va de Pôle emploi, en passant par les centres sociaux, en passant par la CAF, en passant par des institutions comme la MSA, mais aussi des partenaires associatifs, des partenaires de soins. Il faut savoir que le soin, au sens avec un S majuscule, au sens complètement global du terme, est un partenaire très important. Mais vous avez aussi l'agglomération, les CCAS, enfin, on peut citer. Et on travaille normalement, et c'est vraiment là l'intérêt de notre travail, c'est qu'on est normalement en lien permanent et en articulation, en restant chacun avec ses prérogatives et ses spécificités. Hein. Mais on a une articulation entre les partenaires médico-sociaux, hein, du soin, de l'action sociale, de l'enfance-famille, voilà.
Mais alors, dans la pratique, ça doit vouloir dire que vous passez votre temps en réunion.
Ah, vous allez me chercher sur les travers des travailleurs sociaux.
Non, pas du tout, parce que j'imagine un petit peu, avec le nombre d'interlocuteurs que vous avez, ce que peut être votre vie. Oui. Et sur laquelle on voudrait avoir quelques détails vraiment concrets.
Oui, alors... Moi, ma vie de responsable d'une unité territoriale, c'est vrai que j'ai un certain temps donné et important en réunion avec les partenaires pour définir les projets, pour évaluer ce qui se passe, pour comprendre les besoins de la population, pour articuler des projets qu'on ne fasse pas les uns à côté des autres, la même chose sans le savoir. Mais il y a aussi des réunions qui tournent autour des usagers. Il faut que vous gardiez à l'esprit que, par exemple, quand on se réunit avec Pôle emploi, c'est pour parler de situations concrètes, tout en respectant le devoir de réserve et le secret professionnel, mais pour faire avancer des situations concrètes de personnes ou de famille. Donc, ces réunions, elles se surajoutent à un travail de terrain. Ça veut dire que les travailleurs sociaux, on dit toujours, je vais le faire sous forme de boutade, mais que fait donc l'assistante sociale? Que font donc les travailleurs sociaux? Il faut bien comprendre que les travailleurs sociaux sont aussi bien en visite à domicile auprès de la personne, dans son chez-lui, mais sont aussi sur des rendez-vous pour recevoir ici ou là où vous êtes en ce moment, hein, et dans les centres médico-sociaux. Et puis, il y a besoin de tous ces temps de réunion. Moi, j'ai besoin de temps de réunion aussi pour coordonner les actions des différents centres médico-sociaux, les tenir informés des différentes lois qui évoluent. Hein. Ça ne vous a pas échappé quand même. Hein. On est un peu au niveau de la législation. Y a...
On va plutôt vers l'empilement que vers la diminution du volume de la pile.
Ceci est un autre sujet de débat. Mais qui impacte énormément notre travail. Donc, je ne peux pas demander aux travailleurs sociaux de terrain de tout faire. Donc, moi, j'ai un travail de défrichage, d'information, et en même temps aussi de structuration. Il y a ici plus de 70 salariés qui travaillent pour cette unité territoriale. C'est énorme.
Pour l'unité territoriale de Périgueux. Alors justement, c'est le chiffre, un chiffre que je voulais vous demander. Oui. Donc là, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous allez faire tourner rond une entreprise de 70 personnes.
C'est ça. Et ça ne se voit pas. Alors ça va de la technicienne de surface qui a une place éminemment importante pour rendre les locaux accessibles, propres, accueillants pour l'usager et pour aussi les travailleurs sociaux. Donc pour moi, chacun a sa place. J'ai avec nous un agent d'entretien qui est une mine d'or, une perle. On ne se rend pas compte. On a des bâtiments qui vous connaissez déjà dans une maison ce que c'est que... tenir une maison d'un point de vue matériel. Et puis, vous avez les secrétariats, tous les travailleurs médico-sociaux que j'ai cités préalablement. Et je suis accompagnée dans ma fonction par quatre adjoints. Voilà.
Alors, j'imagine que, comme vous nous l'avez évoqué, les gens qui sont sous votre autorité, prend par exemple l'exemple des assistantes sociales, elles ont elles-mêmes des contacts, elles ont des occasions de rencontrer, d'échanger avec d'autres acteurs de ce travail social.
Bien sûr, bien sûr. J'ai une conduite de... Effectivement, vous disiez une entreprise. Moi, j'ai une conduite d'équipe. Mais après, la plus gros, moi, pour ce qui concerne ma tâche, dans ce qu'on appelle la DRH, les ressources humaines, c'est que les personnes soient bien dans leur poste, soient formées, se forment en continu... Et une autonomie de pensée, une autonomie de gestion. Même si, effectivement, les décisions passent par le bureau où vous êtes, il arrive un moment où le travailleur social, s'il est bien à sa place, il a une autonomie. Et il collabore sur le terrain. Enfin, c'est très important qu'on soit vigilant à ça, parce que c'est aussi l'image du conseil départemental qu'il renvoie au quotidien, tous les jours. Donc, je suis très attachée au service public et à l'accueil des publics. Et tout le monde le sait. Voilà.
Alors, avant de vous poser quelques questions sur vos antécédents professionnels, les contacts que vous avez, ou qu'ont plus exactement les travailleurs sociaux qui travaillent sous votre direction, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a une spécificité de l'unité territoriale de Périgueux, en dehors de son importance, de l'importance numérique de la population qui est couverte, mais dans le département, est-ce qu'il y a une particularité remarquable? Et puis, plus largement, est-ce que ce département, en matière d'action sociale, présente des particularités qui sont bonnes à rappeler?
C'est intéressant comme question. Ça mériterait d'être vraiment développé. Pour rappel, parce qu'on n'est pas très lisible, le département, parfois, dans nos missions, on a une mission d'accompagnement des familles qui peut être très, très concrète et de protection de l'enfance et des personnes vulnérables, je tiens à le rappeler. On est quand même... on a la responsabilité de la protection de l'enfance. Oui.
Je pense que les auditeurs ont bien compris que, par exemple, dans une famille donnée, vous pouvez intervenir à une dizaine de titres.
Oui, tout à fait. Au titre de l'administratif, c'est-à-dire à la demande des familles, mais aussi au titre de la justice. Il ne faut pas l'oublier quand même. Après, vous avez raison, chaque unité territoriale a sa spécificité. Parce que, avant d'arriver sur Périgueux, j'étais sur la vallée de l'Isle, la population n'était pas... exactement la même. Il fallait articuler la réponse à l'usager en tenant compte de la ruralité, de la distance, de l'isolement. Là, aujourd'hui, sur Périgueux et la Couronne, l'isolement, il se décline autrement. Il se décline parce que vous avez des populations très marquées, ça ne vous a pas échappé, sur tout ce qui est aussi des cadavres qui s'ouvrent, de l'actualité. On est éclaboussé par l'actualité nationale. Quand je dis éclaboussé, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'on a ce devoir d'accueil.
On a forcément des retombées.
Bien sûr. Hein, vous avez des communes qui travaillent et qui réfléchissent au titre de la politique de la ville. Sur la vallée de l'Isle, vous n'avez pas de politique de la ville. Donc automatiquement, vous devez adapter le travail que vous faites avec votre équipe aux spécificités du territoire. Oui, complètement.
Et alors plus généralement, tout à l'heure vous avez prononcé le mot de ruralité, je pense qu'il est un mot-clé. Est-ce que ça, cette ruralité qui caractérise quand même le département de la Dordogne, est-ce que ça induit des problèmes de protection sociale spécifiques ?
De protection sociale, je ne vais pas aller... Ça implique, j'ai envie de dire, dans notre quotidien... On est quand même aux premières loges pour voir une forme de dégradation. Hein,
il est notoire quand même qu'il y a une pauvreté qui s'installe dans les campagnes.
On fait partie de la ligne de la pauvreté qui descend et qui traverse l'Aquitaine et qui passe par chez nous. Donc on est aux premières lignes pour se rendre compte que même au niveau de la ruralité paye un lourd tribut. Puisque elle paye le tribut par rapport au fait que l'agriculture et les exploitations sont de petits volumes par rapport à la Beauce, la Vrille, la Champagne ou que sais-je.
Hein, c'est l'aspect structurel de la ruralité périgourdine.
C'est ça, qui amène à avoir aussi des éleveurs et des agriculteurs qui ont des vrais problèmes de précarité et qui souvent le taisent par pudeur.
Alors, moi, je pense en particulier aux vieux agriculteurs qui sont à la retraite et puis sont presque dans la misère.
Oui, tout à fait. Et qui souvent sont une population qu'on n'entend pas. Et puis ils payent le tribut de l'évolution. Je suis pas quelqu'un de qui vit dans le passé, mais de justement l'isolement par rapport aux voies d'accès.
Hein. Voilà, la fin de l'autarcie, la coupure d'avec le monde connecté.
C'est ça. Alors là aussi, c'est plus ma mission à moi, mais le département s'emploie à développer la fibre avec des priorités pour couvrir le département. Le département s'emploie à réfléchir et à optimiser les voies de réseau de communication. Donc là, on est loin de l'action sociale.
Toutes ces choses auxquelles il faut remédier, ce sont quand même vos agents qui sont en première ligne pour les repérer, les déficits.
Tout à fait. Il y a un autre versant qu'on n'a pas évoqué, et puis dans les aides concrètes à l'usager, puisque vous parliez... quand je dis que le secteur rural paye un lourd tribut, c'est aussi au niveau du logement. Alors évidemment, on n'a pas de loi d'allo comme en région parisienne ou lyonnaise, mais on a des logements et des propriétaires qui sont pauvres. Il ne faut pas penser uniquement qu'il n'y a que les locataires qui sont
aussi,
pauvres.
Si on connaît un petit peu la campagne,
bien sûr.
Pas forcément uniquement celle du Périgord, on sait qu'il y a des taudis ruraux.
C'est ça. Seulement, on ne les voit pas. Ils sont loin de la route.
Ils sont tellement pittoresques.
Eh oui. Ils sont... Enfin bon. C'était une boutade. Je pense.
Oui, bien sûr. Je voudrais quand même maintenant, Brigitte, vous demander un peu comment vous êtes arrivée à faire ce métier. Est-ce que vous l'avez fait par vocation ou quel a été l'enchaînement des circonstances qui vous a conduit à avoir un poste d'autorité, exercer une autorité sur une structure importante dans le domaine du social?
Je suis dans ma 60e année. Je dois vous dire que en 75, quand je suis sortie de mon bac, 1975, donc c'était une autre époque, j'avais déjà le goût de m'orienter vers une école de travailleur social ou de soins. Et en même temps, je voulais avoir des études. C'était dans ma tête, c'est pour ça que je vous en parle. Des études rapides, parce que je voulais être vite en contact avec le monde. Hein, donc je voulais pas traîner dans les universités, je voulais vite mettre à profit la connaissance que j'avais envie d'avoir des personnes. Voilà. Et donc j'ai commencé par un diplôme d'éducateur spécialisé. Et puis j'ai eu envie de revenir à mes premières amours. Donc j'ai fait après une école d'infirmière. Ce qui m'a permis d'avoir un parcours, pas forcément très lucratif, et c'est pas le sujet, mais très riche. Parce que j'ai pu travailler pratiquement autant comme soignante que comme travailleur social et dans différentes structures. Voilà, j'ai connu...
Donc au départ, il y a quand même eu une vocation qui était celle de s'occuper des gens. Et des gens en difficulté. Pas la peine d'avoir la pudeur de le cacher.
Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas où ça va se nicher. Ça faudrait un bon psychologue. Il faudrait un lit thérapeutique pour savoir si on se soigne soi-même. Moi, ce que j'en garde, c'est ce que me rendent les gens. Enfin, s'occuper de l'autre, c'est avant tout aller chercher chez lui ce qu'il peut vous apporter. J'ai travaillé dans différents endroits. J'ai travaillé de nuit dans des structures hospitalières. La nuit, hein, vous êtes pareil. Vous avez beau être qu'infirmière, vous êtes le capitaine du bateau parce qu'il n'y a pas grand monde à côté. Hein. Et puis, j'ai travaillé dans un centre de détention. Et à chaque fois, les personnes que j'ai en face de moi, elles m'apprennent. Un malade, il vous apprend la vie. Il vous apprend le respect de l'autre. Il vous apprend... Et moi, le souhait le plus fort que j'ai, c'est de pouvoir transmettre à mes enfants, qui sont grands maintenant, mais à mes petits-enfants, ce respect de l'autre et cette curiosité de l'autre, et d'aller chercher dans l'autre ce qui peut vous apporter.
D'après l'âge que vous avez avoué à nos auditeurs, vous approchez maintenant de la retraite. Est-ce que vous êtes effrayé de l'évolution de nos sociétés, en particulier des sociétés de notre département, tout rural qu'il est, auquel vous avez affaire.
Oui, parce que notre département, tout rural qu'il est, il prend de plein fouet aussi l'évolution du monde. Il ne faut pas le minimiser. Hein, après, effrayé, j'ai envie de vous répondre, c'est pas ma nature première. Je suis plutôt quelqu'un...
On va dire préoccupé.
Oui, préoccupé pour la suite. Moi, quand j'ai une préoccupation, c'est pour les générations à venir. Et en même temps, je suis résolument optimiste en me disant que il faut faire confiance. Elles ont un capital certain. Elles sauront certainement trouver comment rebondir. Mais... j'ai envie de dire que leur vie, toute connectée qu'elle est, toute matérielle qu'elle est beaucoup plus compliquée et difficile que la mienne au même âge. Hein? Là, je viens de marier ce week-end mon fils. Je veux dire, il a une vie... c'était un moment de bonheur intense et familial et absolu. Il n'empêche que tous ces jeunes, ils ont une vie beaucoup plus compliquée que la mienne. Et je ferai tout ce qui est dans mon possible pour les accompagner et qu'ils trouvent la force. Parce qu'on est envahi par des informations, on va dire que c'est des informations, hein, ce sont des informations, hein, qui nous arrivent à âge continu, hein, et qui ne donnent pas forcément la force de vivre debout. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir vous-même des moments de doute, de désespérance, ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir à remonter le moral de vos troupes?
Le doute, pour moi, c'est une qualité, voire une vertu. Heureusement que j'ai des doutes dans ma vie. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie pratique, dans ma vie quotidienne. Si je n'avais pas de doute, ce serait grave. Des moments de désespérance, oui, j'en ai, parce qu'on ne peut pas être insensible à ce qu'on voit. Parce qu'en fait, Le travailleur social, je veux lui rendre hommage et j'essaye. Alors je ne sais pas si je le fais bien, si je ne le fais pas bien, si les gens s'en rendent compte. De toute façon, ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas fait pour qu'ils s'en rendent compte. C'est fait pour que ça passe dans le quotidien de façon harmonieuse. Oui, je fais tout mon possible pour accompagner mes travailleurs médico-sociaux. Parce que eux, ils sont en première ligne de la misère humaine, avec un grand H, la misère sociale, mais la misère intérieure aussi. Qu'on ne prononce nulle part ailleurs. Ils voient des choses que les gens ne subodorent pas du tout.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir affaire à des gens qui travaillent avec vous, qui vous ont dit, qui sont venus vous voir en vous disant, ben voilà, là je peux plus, c'est trop, j'arrête.
Oui. Les moments de désespérance, ils existent parce que parfois, même les aides que nous donnons à la population, on les trouve jamais suffisants. Donc je crois que mes collègues de travail, quand elles arrivent dans mon bureau, où il y a peu d'hommes, hein, mais il y en a, et fort heureusement, c'est parce qu'ils baissent les bras, parce qu'ils se sentent impuissants, je pense, et que la réponse n'est pas à la hauteur de leurs espérances. C'est pas, voilà, c'est pas pour autre chose.
Oui, parce que
qu'on ne se leurre pas.
Hein. Ils ont l'impression, dans leur demande, de vider l'océan avec une petite cuillère, ou de remplir un tonneau qui est toujours vide, désespérément vide.
Oui, je crois que c'est une belle image, le tonneau des Danaïdes, effectivement. C'est qu'on est, je leur dis toujours qu'on est l'armée de l'ombre. C'est-à-dire qu'on n'est pas visible, on n'est pas là pour être visible. On est là pour travailler auprès de la population. Et en même temps, je crois qu'on est un des derniers bastions qui tient cette société dans une solidarité d'humain à humain, qui est de plus en plus difficile à détecter. J'espère qu'elle existe toujours, j'ai foi en l'être humain. Mais il n'empêche qu'on a cette solidarité de proximité.
Est-ce que vous pensez... essayer de veiller une fibre nationaliste ou patriotique. Est-ce que vous pensez qu'on est particulièrement doué pour ça, pour s'occuper comme ça, mutuellement, les uns des autres, de leur bien-être?
Vous parlez au niveau de l'Hexagone?
Oui, je parle au niveau de l'Hexagone.
Je crois qu'on a, un beau système de protection sociale. Oui. Je crois qu'on dit souvent ce qui ne va pas. Hein, on dit souvent ce qui ne va pas. Je crois il faut aussi dire ce qui va. Ça évite que les gens se disent, vous parliez de l'océan à la petite cuillère, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde et à quoi sert mon travail, au bout du compte. Je crois que non, on a un beau système de protection sociale. Enfin, le conseil départemental, dans ses missions décentralisées depuis le président Mitterrand, est devenu le fer de lance de l'aide sociale dans toutes ses déclinaisons. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui ont ce luxe.
Nous allons terminer sur une note peut-être plus légère,
oui.
En vous demandant s'il y a une vie en dehors de la vie de directrice d'unité territoriale. Quels sont vos plaisirs? Quels sont vos hobbies, vos passe-temps? Est-ce que vous avez des passions particulières?
Oui. J'ai,
si toutefois vous avez des loisirs pour les exercer.
il faut avoir une... J'ai une vie dense, en termes de vie sur 24 heures. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de temps passé ici. Je le veux bien aussi. Hein. J'ai accepté ce poste. On ne m'a pas mis une épée dans les reins pour me dire « Vous êtes responsable de l'unité territoriale. » Je l'ai accepté. Hein. Heureusement, on en parlait tous les deux en aparté. J'ai une passion pour les musiques. Hein. Je lis beaucoup. J'ai vraiment une affection pour les médecines parallèles et j'ai fait sur mon temps privé pendant 4 ans j'ai pris des cours et j'ai mes certificats d'acupuncture, mais je n'exerce pas puisque je ne suis pas, mais c'était pour le plaisir.
Vous pouvez exercer sur vous
par exemple? Oui, on va faire tourner l'énergie sur soi-même.
Sur cette note optimiste, nous allons nous quitter et je vous remercie beaucoup, Brigitte, de tout ce que vous avez apporté à nos auditeurs.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.